Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Il est bon de rester dans sa présence. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Alors que dans le monde, on pense qu'être chrétien, c'est être triste. Ou aller dans la maison de Dieu, c'est être triste. Quel mensonge! C'est quand nous sommes dans la maison du Seigneur, dans la présence du Seigneur que nous sommes heureux, que nous sommes vraiment heureux, n'est-ce pas vrai? Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais qu'on voit ce matin ensemble le message central des Écritures, le verset où tout est résumé. S'il fallait résumer en un verset tout le message de l'Évangile, pourriez-vous donner ce verset? Martin Luther disait cela, ce verset, c'est comme une petite Bible. Il y a tout dedans. C'est Jean, chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. C'est le verset central. C'est le verset qui nous révèle tout le message de l'Évangile. En peu de mots, il y a des vérités concentrées dans ce verset, des vérités très importantes. Si nous les croyons, ces vérités nous libéreront. Si nous ne les croyons pas, nous resterons dans notre esclavage. Mais seule la vérité libère, la vérité du Seigneur. Jean 3, 16, on devrait tous le savoir par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde, tous ensemble. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous allons relire ce verset, mais je voudrais aussi lire le contexte qui se rapporte à ce verset dans Jean chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 14. Lire aussi le contexte, car il est très important pour notre méditation ce matin. Et le titre de notre message, c'est « Le miracle de l'amour de Dieu ». Le miracle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est quelque chose de miraculeux, qui nous dépasse. C'est pourquoi, bien des fois, les gens disent « Mais je ne comprends pas l'amour de Dieu. Comment ils n'arrivent pas à saisir que Dieu les aime ? C'est un miracle, c'est quelque chose de surnaturel. » De divin. L'amour de Dieu ne se comprend pas, il se reçoit et s'expérimente. Alléluia. Il nous faudra l'éternité pour comprendre l'amour de Dieu. Alors vous pensez bien que c'est pas même en 70 ans sur cette terre que nous allons comprendre. Même si vous vivez 100 ans, 100 ans c'est rien du tout à côté de l'éternité. Il faudra toute l'éternité pour comprendre et encore, il y aura toujours quelque chose de nouveau, toujours. Nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu, mais nous pouvons l'expérimenter. Le miracle de l'amour de Dieu. Lisons ces passages très importants. Jean chapitre 3, verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, » soulignez bien ces pensées, nous allons y revenir tout à l'heure, c'est très important. Car le contexte dans lequel le verset de Jean 3, 16 est dit, c'est dans ce contexte-là. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais qu'on voit ensemble quelques vérités très importantes concernant le miracle de l'amour de Dieu. J'ai noté 5 vérités. Première vérité importante concernant cet amour extraordinaire. Premièrement, l'amour de Dieu est un amour que nous ne pourrons jamais mériter. Notez bien cette pensée très importante. L'amour de Dieu est un amour que nous ne pourrons jamais mériter. Jamais. Beaucoup de gens essayent de mériter l'amour de Dieu en faisant toutes sortes de bonnes œuvres. Et comme ils font toujours des choses qui ne sont pas bien, alors jamais ils ne sont sûrs que Dieu les aime. Pourquoi ? Parce qu'ils basent l'amour de Dieu pour eux sur leurs propres œuvres. Et comme nos œuvres sont toujours imparfaites, comme nous-mêmes, nous avons fait des choses qui ne sont pas toujours aimables, alors jamais nous n'arrivons à cette assurance que Dieu nous aime. Première vérité importante qui peut te libérer, me libérer toujours plus, l'amour de Dieu est un amour que nous ne pourrons jamais mériter. Soulignez bien, jamais, jamais. Jamais. Et c'est là qu'il est important de voir le contexte dans lequel ce verset est donné. Souvent, nous lisons Jean 3,16, mais nous ne lisons pas le contexte. Quel est le contexte ? Le contexte est celui de Moïse avec les enfants d'Israël dans Nombre 21. Nous n'allons pas lire maintenant, ça prendrait trop de temps, mais je vous dis cela comme cela. Le contexte est l'histoire d'Israël avec Moïse. À un moment donné, ils étaient dans le désert, et après une grande délivrance, ils ont commencé à murmurer. C'était curieux, quand vous lisez le livre, l'histoire d'Israël, c'est vraiment une histoire où Dieu fait de grandes délivrances en faveur de son peuple. Et quelques temps après, on a l'impression que dès qu'ils tournent leur dos, de nouveau, ils tombent dans l'idolâtrie, dans les murmures, dans la rébellion. Et chaque fois que Israël criait à Dieu, Dieu dans sa grâce, de nouveau, venait à leur secours et ne les laissait pas tomber. Et ici, dans Nombre 21, on voit Israël qui venait d'expérimenter une grande délivrance, mais d'un seul coup. Mais peut-être qu'on va lire, peut-être je vais quand même le vous lire cela. Nombre 21. Je crois qu'il est important de lire ce passage. Nombre 21, les serpents brûlants. Voyez-vous, au verset 1er, il est dit, « Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leur ville. Et l'on nomma ce lieu Orma. Voyez-vous, une grande délivrance. Extraordinaire. Dieu les a délivrés de leurs ennemis. Et au verset 4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, voilà Israël qui rouspète, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, en parlant de la manne, n'est-ce pas? D'un seul coup, il n'y a plus rien qui va, plus rien. C'est la faute de Dieu, c'est la faute de Moïse. D'un seul coup, et la manne, on s'en prend à tout. Cette manne-là, on en a assez maintenant. Mais regardez ce qui se passe. Et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria le peuple, pour le peuple, pardon. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Voyez-vous ici, le contexte est vraiment très significatif. Et Moïse dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. » Alors voyez-vous, la leçon importante pour nous ce matin est celle-ci. C'est que Israël a péché. Israël a murmuré contre Dieu, contre Moïse, contre la manne. Tous les jours, Dieu leur donnait cette manne, c'était un miracle. Du pain qui descendait du ciel, c'était comme un gâteau de miel, c'était un véritable miracle. Dieu leur accordait ça pendant des années et des années. Et voilà que là, ils commencent à murmurer. Oh, on en a assez, on en a assez. Dieu, voyant cela, envoie des serpents brûlants. Et des centaines, on ne sait pas combien sont morts, mais certainement des centaines, peut-être même des milliers sont morts. Et tout à coup, il crie. Nous avons péché contre l'Éternel et contre toi, Moïse. Fais quelque chose, on est tous en train de mourir. Et dans le camp, les uns après les autres étaient en train de tomber. Les serpents étaient là. Ils tombaient les uns après les autres. D'un seul coup, c'était la mort dans le camp. C'était la mort. L'ennemi était en train de détruire tout cela. Mais à cause de qui? À cause de leur rébellion et de leur péché. Et Dieu utilise ce contexte-là, cette histoire-là, pour nous révéler l'amour de Dieu. Voyez-vous, Israël a péché. Ils ont commencé à dire « Nous avons péché ». Et à partir du moment où ils ont reconnu leur état de péché, leur rébellion devant Dieu, alors le remède intervient. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi vite, un serpent d'airain, qui est là l'image de la croix, où Jésus a été fait péché pour nous sur la croix. Et tout de suite, il a fait ce serpent d'airain. Et quiconque regardait à ce serpent d'airain avait la vie sauve. Avait la vie sauve. Ne mourrez pas. Et alors tout de suite, Moïse, voyez-vous, malgré l'opposition des enfants d'Israël, il aurait pu dire, c'est bien fait pour vous. Vous avez parlé contre Dieu, et vous avez parlé contre moi aussi. Moïse, toi, ils ont dit, faire ça. Ils ont dit, Moïse, c'est à cause de toi maintenant qu'on est dans tout ça. Ça va pas ici, pas d'eau, rien à manger, rien à boire. Toujours la même nourriture. Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Et ils se sont moqués de lui, ils l'ont rejeté. Et maintenant, Dieu dit à Moïse, fais vite un serpent d'airain. Regardez l'amour de Dieu et aussi l'amour de son serviteur. Il aurait pu réagir autrement. Il aurait pu dire, c'est bien fait maintenant. C'est bien fait, c'est tout ce que vous méritez. Vous avez murmuré, vous êtes rebellé contre Dieu, vous méritez la mort. Mais regardez l'amour de Dieu. Dès qu'ils ont crié, nous avons péché. Nous avons péché, nous avons mal parlé de Dieu et de toi, Moïse. Instantanément, Dieu vient avec une solution. Amen. Et nous voyons là l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste envers nous qui étions ennemis de Dieu. Voyez-vous, l'amour de Dieu, cette qualité de l'amour, c'est un amour qui se manifeste alors que nous étions ennemis de Dieu. C'est là que cet amour est extraordinaire. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit ceci: « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quel amour extraordinaire! Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions loin de Dieu, ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, il y a là la première vérité concernant l'amour. C'est un amour qui nous aime alors que nous avons été les ennemis de Dieu. Amen. Alors que tu as été ennemi de Dieu, que j'ai été ennemi de Dieu, Dieu nous aime encore. Et il veut faire quelque chose pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous délivrer. Voyez-vous, alors qu'il n'y a rien d'aimable en nous, Dieu nous a quand même aimés. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est là quelque chose qui nous dépasse, n'est-ce pas vrai? Israël méritait la mort, méritait le jugement. Mais à partir du moment où ils ont reconnu leur péché, nous avons péché, Dieu tout de suite vient à leur secours et leur donne ce serpent d'airain qui est l'image de Jésus-Christ, qui a été suspendu sur la croix. L'Éternel n'a pas attendu 5 minutes pour les en délivrer. Tout de suite, son amour était là. Mais il n'attendait qu'une chose, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils avaient péché devant Dieu. Bien souvent, nous nous demandons pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas dans nos vies. Chers amis, Dieu est toujours prêt à intervenir. À partir du moment où nous nous repentons sincèrement, à partir du moment où nous crions à Dieu de tout notre cœur, Dieu intervient. Dieu n'est pas loin de nous. Alléluia! C'est un amour que vous ne pourrez jamais mériter. Donc, c'est quelque chose qui doit bien pénétrer au fond de nous-mêmes, car la nature humaine veut toujours mériter cet amour. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait pour, voilà, je prie beaucoup, je donne beaucoup, je fais beaucoup de prières, je tâche d'aller à l'église tant que je peux, je fais ceci. Et on essaye ainsi de mériter l'amour de Dieu. Et comme on n'en fait jamais assez, alors jamais, on croit que Dieu nous aime. Mes amis, là, selon la parole de Dieu, nous avons tous péché contre Dieu. Nous sommes tous ses ennemis. Nous sommes tous haïssables aux yeux de Dieu. Et cependant, Dieu nous aime encore. Amen. Moi, personnellement, ce qui m'a touché le plus quand je me suis converti, c'était le fait que je puisse venir au Seigneur avec mes péchés et savoir qu'il m'aimait encore malgré tout le mal que j'avais fait, en pensée ou en parole ou en action, malgré tout cela, savoir que Dieu m'aimait encore, c'est ce qui m'a brisé. C'est là que j'ai vu un amour tellement pur, céleste, divin. Seigneur, que tu m'aimes encore alors que je t'ai haï, alors que je ne me suis pas occupé de toi, alors que je t'ai fait des choses qui t'ont déshonoré. J'ai péché contre toi. J'ai péché aussi contre Moïse, c'est-à-dire contre ton peuple. Combien de fois nous nous sommes moqués aussi des chrétiens? Je me suis aussi moqué de certains chrétiens avant de me convertir. Mais quand nous réalisons que malgré tout cela, malgré tout cela, Dieu nous aime encore. Quel amour! Quelle libération! Amen! C'est une véritable libération. C'est pourquoi nul n'est exclu de l'amour de Dieu au milieu de nous. Nul n'est exclu. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu a aimé, il a aimé le monde. Alléluia! Et il a tant aimé le monde. J'aime bien souligner bien ce tant. Dieu a tant aimé le monde. Regardez l'intensité de son amour, la grandeur de son amour, la puissance de cet amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mes amis, jamais vous ne pourrez dire un jour que Dieu ne vous a pas aimé, jamais. Et c'est pourquoi le plus grand péché, finalement, c'est de dire non à l'amour de Dieu. Un jour, si quelqu'un est perdu, ce n'est pas parce qu'il a été un grand pécheur, mais c'est parce qu'il a refusé le remède que Dieu a donné pour le pardon de ses péchés. En Jésus-Christ, son Sauveur, tu ne seras pas condamné un jour parce que tu as beaucoup péché. Tu seras condamné un jour parce que tu as refusé l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, le remède de Dieu pour pardonner tes péchés, pour te libérer de ta culpabilité. Quel amour! Dieu a tant aimé le monde. Israël se rebellait constamment contre Dieu, mais chaque fois qu'il revenait, Dieu, dans sa grâce, dans sa fidélité, dans son amour, exaucer leurs prières. Amen. C'est là une des premières qualités de l'amour. C'est un amour donc que nous ne pouvons pas mériter. Parce que nous avons tous été ennemis de Dieu. Et Dieu nous aime. Personne n'est exclu de cet amour. Personne ne peut dire, moi j'ai trop péché. Dieu ne peut pas m'aimer, ce n'est pas vrai. Dieu nous aime tous. Amen. Oh, si nous savions comme il nous aime. Oh, si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Tu viendrais alors même. Tu viendrais aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et nous devons bien comprendre cela, mes amis. C'est important. Parce que tout le reste de notre vie chrétienne va dépendre de cela. Quand nous réalisons la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, qui étions ennemis de Dieu, il n'y a rien de tel pour nous briser et pour faire de nous des chrétiens entièrement consacrés au Seigneur. Amen. Quand je pense que certaines personnes me disent, « Ah oui, mais alors quand vous parlez comme ça que Dieu, Jésus-Christ est mort pour nous, alors ça veut dire quoi? Qu'on peut être sauvé comme ça, par grâce, qu'on n'a rien à faire? Alors ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut? Une fois qu'on est sauvé, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut? Détrompez-vous! Celui qui parle comme cela, c'est justement celui qui n'a pas compris l'amour de Dieu pour lui. Quand nous avons compris quel prix le Seigneur a dû payer pour nous délivrer. Et avec quel amour il a manifesté sa grâce à notre égard. En retour, nous ne pouvons faire qu'une chose. Oh mon Dieu, devant un tel amour, je me donne à toi pour te suivre et pour t'aimer tous les jours de ma vie. Amen. Quand on a compris la grandeur de cet amour, nous ne pouvons plus rester les mêmes personnes. Un jour, je lisais cette histoire d'un jeune homme qui avait quitté la maison. Il s'était fâché avec ses parents. Et il avait dit, « Allez, moi, je m'en vais. » C'était un peu le fils prodigue. Il a dit, « Moi, je m'en vais. » Il s'était fâché avec ses parents. Il est parti, il a fait tout ce qu'il a voulu. Alors, bien sûr, au début, tout allait bien. C'est comme avec l'histoire de la parabole au début. Tant qu'il avait des petits sous, et tout ça, quand il est là, tout le monde était là, venait auprès de lui. Mais le jour où il n'y avait plus de sous, plus rien du tout, les amis aussi ont commencé à l'abandonner, il s'est trouvé tout seul, malheureux. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai méprisé mes parents. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce qu'ils m'aiment encore? Est-ce qu'ils m'aiment? Après ce que j'ai fait, est-ce qu'ils m'aiment encore? Et il se posait cette question. Et après plusieurs années, il s'est dit, mais il faut quand même que je retourne à la maison. Mais est-ce qu'ils m'aiment encore? Il n'était pas sûr que que ses parents l'aimait encore. Et alors, un jour, il a pris, il ne pouvait plus rester comme cela, il a pris une feuille et il a écrit à ses parents. Il leur a dit, écoutez, chers parents, je voudrais revenir à la maison, mais je ne sais pas si vous m'aimez encore, si vous m'avez pardonné, si je reviens. Et voilà ce qu'on va faire. Voilà ce que je vous demande de faire. Comme la maison où nous habitons est près d'une voie ferrée, et devant notre maison, il y a un grand arbre. Sur cet arbre-là, s'il vous plaît, mettez une grande serviette blanche. Et quand je verrai cette serviette blanche, cela veut dire que vous m'attendez, vous m'aimez toujours. Je m'arrêterai à la prochaine gare et je viendrai vous voir. Mais si en passant devant la maison, et si je ne vois pas cette serviette blanche sur l'arbre, eh bien je saurai que vous ne m'aimez plus et je partirai. Pour toujours. Et alors, ce jeune homme était là, il avait écrit cette lettre, et maintenant, Le jour est arrivé où il a pris le train. Il a pris le train. Et dans le train, le compartiment, il était un peu anxieux. Il était là. Est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que la serviette sera là? Est-ce que la serviette blanche, est-ce qu'elle sera là? Elle sera là ou pas? Elle sera là ou pas? Est-ce qu'il m'aime encore ou pas? Alors, il était là tourmenté. Il y avait dans le... Dans son compartiment, il y avait un autre monsieur qui le voyait un peu agité. Il dit, mais jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça va pas? Vous êtes un peu troublé, je vois, un peu agité. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Mais si, je vois, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi vous êtes un tourmenté? Ça va pas? Écoutez, oui, il y a quelque chose qui va pas. Après des années, loin de la maison, je rentre maintenant. Et dans peu de temps, on va passer devant la maison, le train... passe tout près de la maison. Et voilà ce que j'ai dit à mes parents, de mettre justement une serviette blanche devant, sur l'arbre de notre maison. Si cette serviette blanche est là, alors je saurai qu'il m'aime et que je peux rentrer à la maison. Alors, mais il dit, j'ose pas regarder. J'ose pas regarder cet arbre, parce que si la serviette blanche n'est pas dessus, ce serait terrible pour moi. Je peux pas, je peux plus rien, j'ose pas regarder. Alors son copain là a dit dans le train, écoute, je vois, écoute, moi, c'est bon, tu n'oses pas regarder, mais moi, je regarderai à ta place alors. T'es trop ému, je vais regarder à ta place. Allez, bon, d'accord, oui, parce que j'ose pas, parce que si je vois pas la serviette blanche, ce serait terrible pour moi. C'est que je peux plus jamais, je verrai mes parents. Et alors, il est resté là un peu dans son coin, tranquille, il reconnaissait un peu le coin, tout ça, il dit, voilà, ça y est, on arrive. On arrive, la maison est à 10 km à peu près. Voilà, maintenant on arrive, 5 km, 4 km. Voilà, je reconnais le coin. Voilà, ici, il y a ça, un grand champ ici. Voilà, l'usine par là. Ah oui, on arrive. La maison est à maintenant 1 km, 500 mètres. Mais j'ose plus regarder maintenant. Alors regardez bien, la maison, le train va comme ça. La maison est juste là. Là, à 300 mètres, la maison est là. Et vous allez la voir. Mais j'ose plus regarder. Et puis l'autre, il dit, je vais regarder. Alors l'autre, regardez. Et quand ils ont passé juste devant la maison où il y avait un grand arbre, il a dit, oh, viens vite, regarde, viens vite, il y a l'arbre, et il y a plein de serviettes blanches dessus, il n'y en a pas seulement une, il y en a au moins une centaine, regarde, et le jeune homme quand il a vu ça, quelle délivrance en lui, il savait que ses parents l'aimaient encore, pas seulement une serviette blanche, mais une centaine de serviettes l'attendaient. Et bien sûr, il est descendu à la prochaine gare et il est arrivé à la maison. Il savait désormais que ses parents l'attendaient et l'aimaient encore. Amen. Quel amour. L'amour de Dieu, c'est cela. Tous les grands serviteurs de Dieu, tous les chrétiens qui ont vraiment eu un impact dans leur témoignage, dans leur vie, laissez-moi vous dire une chose, c'est très important, ce sont ceux qui ont réalisé la grandeur de l'amour de Dieu pour eux. L'apôtre Paul, quand on l'entend dans 1 Timothée, il dit ceci, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Dont je suis le premier. Pourtant, c'est l'apôtre, le grand apôtre, le premier, il a réalisé. Et lui-même le dit, Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Regardez la révélation qu'il a eue, que nous devons avoir. Il m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il s'est livré pour moi. Il m'a aimé, moi, un blasphémateur, un homme violent, un persécuteur. Il a persécuté les premiers chrétiens. Il a prouvé le meurtre d'Étienne. Il l'a prouvé, il était là. Il y avait en lui ce cœur de meurtrier. Il y avait tout cela dans le cœur de Paul. Mais quand Dieu l'a appelé sur le chemin de Damas, il lui a dit, Simon, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de te régimber contre les aiguillons. Que veux-tu que je fasse? Va à Damas là-bas. Il y aura quelqu'un qui va venir dans ta maison, un nommé Ananias. Il te dira tout ce que tu dois faire. Et nous voyons que là, le cœur de Paul a été brisé devant la haine de son cœur, la méchanceté de son cœur, l'amour de Dieu l'a saisi. À tout le mal qu'il a fait, Dieu vient à lui dans un esprit de pardon, de délivrance. Je crois que c'est cela qui a touché le cœur de Paul. Alors qu'il était animé d'une colère et de la haine, il respirait le meurtre, il est dit, il respirait le meurtre, rempli de haine. Et dans cet état-là, Dieu le rencontre sur le chemin de Damas. Je crois que c'est cette expérience qu'il a brisée au plus profond de lui-même. Alors qu'il était contre Dieu, qu'il respirait la haine contre Dieu, contre Jésus de Nazareth, et contre ses disciples. Voyez-vous, ça se répète avec les enfants d'Israël qui se rebellaient contre Dieu et contre Moïse. Et lui, c'était la même chose. Mais malgré cette attitude-là, que Dieu soit venu à lui sur le chemin de Damas. C'est pourquoi plus tard, il dit devant les empereurs, devant les rois, il leur disait lorsqu'il témoignait, « Je n'ai pas pu résister à la vision céleste, cette vision qu'il avait bouleversée. Lui, l'ennemi de Dieu, Dieu est venu le rencontrer. Quel amour, quelle grâce. C'est cet amour qui l'a libéré. Et c'est cet amour-là, mes amis, qui fera que nous deviendrons des chrétiens forts, solides, victorieux. Amen. Un amour que nous ne pourrons jamais mériter, que Paul n'a pas pu mériter, que Pierre n'a pu mériter, qu'aucun des apôtres n'ont mérité. C'est un amour trop grand ou extraordinaire. C'est un amour qui vient nous rencontrer alors que nous sommes contre lui. Alors que nous tournons le dos à Dieu, il vient nous rencontrer. Quel amour! Quel amour! Et c'est ce qui m'a touché aussi. Et c'est certainement ce qui vous a touché aussi. Rappelez-vous de ces moments-là. Rappelez-vous de ces moments-là. C'est là que l'amour de Dieu a brillé de son éclat le plus grand en face de notre péché, de notre rébellion. Alors que nous ne cherchions pas Dieu, Dieu nous cherchait. Sa grâce de Dieu, sa grâce est grande envers nous, mes amis. Grande envers nous. Gloire au Seigneur. Que jamais nous n'oublions Golgotha et ce qu'il a fait pour nous. Amen. Jamais, jamais, jamais ne doute de son amour à ton égard. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tu ne pourras jamais mériter cet amour. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour le mériter? Tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à croire à cet amour. Tu n'as qu'à le croire et qu'à le recevoir. Ne cherche pas à comprendre. Gloire à Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Gloire au Seigneur. Une deuxième vérité concernant cet amour maintenant, c'est un amour qui se sacrifie. Un amour qui se sacrifie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un amour qui se sacrifie. Voyez-vous, Dieu ne nous a pas seulement aimés du haut du ciel, n'est-ce pas? Il ne nous a pas aimés dans son ciel en envoyant des anges ou des apôtres ou prophètes en disant, ben voilà, Dieu vous aime. Ce n'était pas suffisant. Dieu est venu lui-même en personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. C'est un amour qui se sacrifie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voyez-vous, c'est un amour qui va jusqu'au sacrifice de soi-même. Que Dieu nous ait aimés jusqu'à donner son Fils, son unique. Dieu a donné le meilleur de lui-même. Il n'avait qu'un Fils et il l'a donné. C'était le meilleur. Jamais nous ne pourrons comprendre cela. C'est un amour qui se sacrifie. Il fallait ce sacrifice-là. Sinon, nous ne pouvons pas être pardonnés. Nous discutions encore il n'y a pas longtemps avec une personne qui mettait sa confiance dans sa religion. Mais j'ai dit, mais comment pensez-vous être sauvé? Elle me dit, ah ben, avec le bien que je fais, avec les prières que je fais, avec... ou bien, j'ai vu que parce qu'elle était fidèle à son mari, elle pensait qu'à cause de cela, elle gagnerait aussi le ciel. Mais j'ai dit alors, vous, autrement dit, vous êtes sauvés à cause de ce que vous faites. Au début, elle me dit, non, mais c'est pas... Oui, mais j'ai dit, alors c'est quoi tout ce que, vous êtes en train de me dire tout ce que vous faites pour qu'un jour être sauvé. Mais j'ai dit, alors à quoi sert la mort de Jésus? Alors pourquoi Jésus est mort? Finalement, alors pourquoi il est mort, Jésus? Autrement dit, sa mort n'est pas suffisante, est insuffisante. Il a pas assez souffert. Et là, elle ne pouvait plus rien dire. Elle ne pouvait plus rien dire parce qu'elle a vu tout à coup qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On n'est pas sauvé à cause de ce que nous faisons, mais on est sauvé à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Amen. Et ce qu'il a fait, il l'a fait parfaitement. Il n'y a plus à refaire ce qu'il a fait. Il a payé notre dette une fois pour toutes. Gloire à Dieu. C'est un amour qui se sacrifie. Qui se sacrifie. Les pharisiens, les scribes qui étaient là, au pied de la croix, qu'est-ce qu'ils disaient? Allez, toi, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous te suivrons. Jésus pouvait descendre s'il aurait voulu, vous êtes d'accord avec moi? Il aurait pu. Lui-même l'avait dit, si je voulais, mais je peux faire venir des légions d'anges là et me délivrer tout de suite. Et les autres pensaient que parce qu'il ne descendait pas de la croix, c'est parce qu'il était faible et ou parce qu'il était un menteur, un imposteur. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Si Jésus était descendu, il se serait sauvé lui-même, mais nous serions perdus pour l'éternité. Il faut, avez-vous vu ce qui est écrit? Il faut que le Fils de l'homme soit livré, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Il le faut. Il fallait que Jésus souffre et meure à notre place pour que nous soyons pardonnés. Nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes. Il fallait le sacrifice de Jésus. Et c'est là encore que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent, mais comment ça? Est-ce que pour que je sois pardonné, il fallait vraiment que Jésus meure? Et puis, est-ce que sa mort est vraiment suffisante pour me pardonner? La preuve que les gens ne comprennent et l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus, c'est qu'à côté du sacrifice de Jésus, on fait encore tout un tas de choses pour être sauvé, n'est-ce pas vrai? Tout un tas de choses, on fait encore mille et une choses. Ah mais je dois faire ceci, je dois faire ça, je dois encore faire les aumônes, des bonnes œuvres, des certes, voilà, pour être sauvé. C'est parce que nous n'avons pas compris le sacrifice de Jésus. Lorsqu'il est mort sur la croix, c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. Christ a souffert une fois pour nos péchés. Lui le juste, pour nous injuste, afin de nous amener à Dieu. Alléluia. Jésus était le juste qui est mort pour nous injustes. Il était l'innocent mort pour des coupables. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes parce que nous sommes pécheurs. Aucun pécheur ne peut se sauver lui-même. Aucun pécheur ne peut se racheter lui-même. Ni notre religion, ni nos prières, ni nos bonnes œuvres, ni quoi que ce soit ne peuvent nous racheter. Voilà pourquoi Jésus est mort sur la croix. Amen. Mais c'est une bonne nouvelle, voilà pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle à ceux qui réalisent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je ne suis pas venu pour des bien portants, disait Jésus, mais pour des malades. À ceux qui réalisent leur état de perdition, leur état de péché, à ceux qui réalisent qu'une fois pour toutes, ils ne pourront jamais payer leur salut. La dette est trop élevée. Jamais, jamais nous ne pourrons payer notre salut. Non seulement nous ne pouvons pas le payer, mais Dieu ne nous demande pas de payer quoi que ce soit. Amen. Voilà encore quelque chose de très important. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose pour être sauvé. Et qu'est-ce qu'il te dit de faire? Eh bien, il te dit de regarder à la croix où Jésus a tout fait. Quand Jésus s'était écrié « Tout est accompli », c'était la délivrance totale. La dette est payée totalement. C'est pourquoi nous pouvons venir à Jésus maintenant et accepté son salut, sa grâce, son pardon. Il a tout payé. Il n'y a plus rien en moi qui peut faire quelque chose pour être sauvé. Le salut est un cadeau merveilleux, un don de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'amour qui se sacrifie. Un amour qui se sacrifie pour chacun d'entre nous. Il l'a fait. Tu n'as plus à te sacrifier toi-même. Combien de gens disent « Ah oui, mais il faut que je me sacrifie moi maintenant. » Il s'est sacrifié pour moi et moi je dois me sacrifier pour lui. Non, jamais. En disant cela, nous méprisons les souffrances de Jésus. Il s'est sacrifié pour toi, une fois pour toutes, afin que toi, tu ne te sacrifies plus pour tes péchés, parce que tu ne pouvais jamais le faire. Voilà la bonne nouvelle. Gloire au Seigneur. Quelle bonne nouvelle. Et vous dites, mais c'est pas possible. Oui, il a tout fait. Le salut est gratuit. Mais il n'est pas bon marché. Le salut est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Il est gratuit pour nous. Mais il a coûté la vie du Fils de Dieu. Et quand on a compris cela, alors, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Sauveur, notre vie tout entière change. Car si c'est mon péché qui a crucifié le Seigneur, désormais, je vivrai loin du péché. Je vivrai en nouveauté de vie. Je n'irai pas recommencer toujours mes péchés et les confesser, comme dans la religion on le fait facilement. On va confesser son péché, et pour recommencer encore pendant toute la semaine, et après on va reconfesser pour recommencer. Ce n'est pas ça. Quelqu'un qui fait cela, il n'a pas compris le sacrifice de Jésus. Il n'a pas compris que son péché a fait souffrir le Seigneur. Et que Dieu hait le péché. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Nous devons haïr le péché désormais. Christ est mort pour mes péchés. Et lorsque je me donne à lui, il me pardonne. Et désormais je vis loin du péché, loin du mal, loin de tout ce qui déshonore Dieu dans ma vie. Amen. L'amour qui se sacrifie. Et on arrive au bout. Je vais vous donner une troisième vérité maintenant. Un amour qui avertit. Un amour qui avertit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Nous voyons là un amour qui avertit du danger, qui guette tous ceux qui n'acceptent pas ce salut. Ne périsse point. Il est parlé de l'enfer ici. Il est parlé de la perdition éternelle. Jésus est venu nous sauver de la perdition éternelle. Voyez-vous, quand il est dit plus loin que Jésus n'est pas venu pour juger ou condamner, pourquoi il est dit cela? Parce que les hommes sont déjà jugés et condamnés à cause de leur péché. C'est comme Israël qui était là, qui était mordu par les serpents. La mort était déjà là. Et spirituellement, le péché nous a tous mordus. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, bien sûr, parce que nous sommes déjà condamnés. Et si nous croyons en son sacrifice, nous serons sauvés. Mais sauvés de quoi? De l'enfer. L'enfer. Ne périsse point. Le purgatoire n'existe pas aux yeux de Dieu. Il y a ou le ciel ou l'enfer. Si notre vie n'est pas en règle avec Dieu, c'est l'enfer qui nous attend. C'est une vérité solennelle. Solennelle. C'est ça le véritable amour. Il y en a qui vous disent qu'ils vous aiment, mais qui ne prêchent pas ces vérités. Et qui vous dit, oh, c'est rien du tout, continue comme ça, continue. Surtout, mets toujours de l'argent dans la collecte, continue de faire des prières. Mais surtout, n'oublie pas de mettre l'argent un peu à la collecte. Ça, c'est très intéressant, ça, mets-en un peu plus. Voilà, ça, c'est bon. Plus tu en mettras, plus ce sera intéressant. Et on vous dit, on ne vous dit rien du tout. On vous parle de purgatoire, alors que la Bible ne parle pas du tout de purgatoire. C'est une invention humaine. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si nous ne le croyons pas, si nous ne mettons pas notre confiance dans le seul sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés, nous serons perdus éternellement. Nous serons perdus éternellement. Mais vous dites, où est l'amour de Dieu alors? Eh bien, c'est justement ça. C'est ça la preuve de l'amour. L'amour est là, se prouve là, quand elle dit la vérité. C'est ça le véritable amour. Elle dit, il dit la vérité. Si tu ne suis pas ce chemin-là, si tu ne mets pas ta vie en règle avec Dieu, tu seras perdu éternellement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de salut après la mort. C'est maintenant. ne périsse point. Un amour qui avertit. Mes amis, laissez-vous avertir. Laissez-vous avertir par le Seigneur. Ne dites pas, oh là là, oh, ça, Dieu est trop bon pour envoyer quelqu'un en enfer. Dieu n'enverra jamais quelqu'un en enfer. Vous savez qui vous enverra en enfer? C'est vous-même. Votre propre péché qui vous conduira. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un en enfer. C'est l'homme à cause de son péché qui ira là-bas. Mettez quelqu'un avec son péché au ciel, il ne tiendra pas le coup. Quelqu'un qui n'est pas purifié de son péché et qui va au ciel, il ne peut pas tenir là-bas, devant la sainteté divine, devant la gloire céleste. Il va baisser la tête, il va dire, ah, malheur à moi, je ne peux pas tenir dans cette pureté. Mon péché est dévoilé, je ne peux pas. Il ne pourra pas rester devant la gloire, la pureté du ciel. Et nous, sur la terre, on veut envoyer tout le monde au ciel comme ça. Sans que ces gens soient préparés. En pensant que, avec Dieu, tout s'arrangera. Mes amis, détrompez-vous. Vous-même, vous ne tiendrez pas devant la sainteté et la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, qui n'était pas l'apôtre encore, quand il est tombé sur le chemin de Damas, une lumière est venue en lui, a resplendi sur son chemin. Et il a vu là la gloire de Dieu. Et la méchanceté de son cœur. Il s'est écrié, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mes amis, quand on a vu Dieu dans sa sainteté, alors on ne joue plus avec le péché. On ne joue plus avec le péché. Mais personne n'entrera au ciel comme cela. Il faut que notre cœur soit purifié par le sang de Jésus. Amen. Purifié. Un amour qui avertit, mes amis. Et Dieu nous avertit. Tu es averti aujourd'hui. Puisses-tu répondre à son appel. Car un jour, ces avertissements disparaîtront. Un jour, la porte de la grâce sera fermée. Comme du temps de Noé, n'est-ce pas? Il a prêché pendant des années et des années. Et tout le monde se moquait de lui. Ah, Noé. Ouais, ouais. Ton histoire de déluge, là, ça n'existe pas. Jamais il y a eu de déluge sur la terre. Et c'est vrai. Du temps de Noé, il n'y avait jamais eu de déluge. Et c'est pourquoi les gens se moquaient de lui en disant, mais comment, tu parles de déluge, toi? Mais jamais on a vu ça, ça n'existe pas. Tu es un menteur, Noé. Tu es un menteur. Dieu m'a dit cela. Dieu l'a dit et Dieu ne ment pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui n'ont pas cru on sont morts dans le déluge, selon la parole de Noé, que Dieu lui avait donnée. Les paroles de Dieu s'accompliront toutes, mes amis, que nous croyons ou pas, la parole de Dieu est la vérité. Si nous ne nous laissons pas juger maintenant, au dernier jour, Dieu nous jugera. Acceptons Jésus comme notre sauveur aujourd'hui, sinon demain, il sera notre juge. Si nous ne l'acceptons pas comme notre sauveur aujourd'hui, demain, il sera notre juge. C'est un amour qui avertit. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Oh ben, les cinq vérités, je vous les donne quand même. Alors, c'est un amour qui donne, quatrième vérité, c'est un amour qui donne généreusement. Un amour qui donne et qui se donne, sans compter. Amen. Il a donné le meilleur. Et maintenant, si nous appartenons au Seigneur, nous nous donnons tout entier. Ce n'est pas les débris qu'il faut donner au Seigneur. Il y a des gens, quand ils viennent au Seigneur, ils lui donnent des débris seulement. Il faut lui donner toute votre vie, vos péchés, mais aussi vous-même, tout entier. Il s'est donné totalement, donnez-vous totalement. Et cinquième vérité, c'est un amour qui nous donne l'assurance que nous sommes sauvés. C'est un amour qui nous donne de l'assurance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui, ne périsse point, mais qu'il est... la vie éternelle. L'assurance de la vie éternelle. Amen. Voilà. Es-tu sûr d'être sauvé? C'est là ce que son amour veut te donner. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, a dit Jésus. Mais pour cela, il faut se repentir de ses péchés, les abandonner, se détourner de ses péchés et croire que seul le sacrifice de Jésus nous sauve. Et que désormais, en acceptant Christ dans sa vie, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà l'amour de Dieu qui nous appelle ses enfants.
Alléluia! Et je termine par ce verset, 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu, et nous le sommes. Non pas une religion. Avoir une religion, mais être enfant de Dieu. Et l'on devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans son cœur, comme son Seigneur et son Maître, à qui l'on consacre tout pour le temps et pour l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.